monsieur propre à un saut, tu nous laves le seul.
D'ailleurs, en parlant du Captain Man, j'ai l'impression qu'on me dérange en fait.
Quoi?
J'ai l'impression qu'on dérange le Captain.
Pourquoi?
Ah, je sais pas, je sais pas.
Bah, il est en train de bosser lui.
Bah, ouais.
Nous on fait les imbéciles.
Non, mais même ce matin, tu vois. Entre 6 et 9.
Ah, bah, tu m'étonnes.
Bah, on l'a quand même fait se lever à 6h. Il ouvre à 10h normalement.
Donc, je pense qu'il est juste en train de dormir à son poste.
Non, il est malade en même temps aussi. Donc,
mais ça, on savait que le
Captain. C'est vrai que la personne la plus dynamique, on l'a dit tout à l'heure, c'est Lord ton père.
Lord ton père, il est à fond.
D'ailleurs, Lord ton père, soit dit en passant.
Ou alors, moi, je trouve que Quaco, c'est un gros connard.
D'ailleurs, je tiens à dire.
Lord ton père. Ton corps de bête. Là, ton père. Ton corps de bête.
C'était quoi le jingle?
Il a cru qu'il y avait un loup.
Loup de Dieu, c'était pof.
Ah, d'accord, ok.
Mais moi, je préfère faire. Vanessa, ton corps de rêve.
Lyon, il paraît que vous comparez au micro.
Et pise à vomir.
Raoulito, dis pof, tu sors.
Ah non, non, il dit pof et puis après il fait une flèche vers la droite.
Oui, bah ça veut dire.
Ah, mais il n'y a pas de porte, alors moi je sors pas.
Et Vanessa répond, oui, ça t'apprendra.
Non, je pense qu'il manque une lettre.
Bon, je vais la comprendre.
Bon, alors sur ces conneries. Oui, donc les navigateurs, on a dit qu'on n'en avait plus rien à foutre. Et bien écoute, balance un jiggle, on passe au sujet suivant. Sujet suivant qui
Angelus,
est.
Angelus, ton iPhone il est surchargé.
La chronique tech sur Microsoft, Angelus.
Il faut que tu te. Ton iPhone il y a marqué SMS 2, SMS 3, SMS 14, SMS. Ouais. Tout le monde t'envoie des SMS, mon petit.
Il faut mettre un jingle, nous allons donc mettre le jingle.
Attends, je te rappelle que c'est une chronique tech.
C'est une chronique tech, nous allons mettre le jingle de la chronique tech, c'est-à-dire l'intro chronique tech. C'est parti, mon kiki.
Tu nous fais ça avec la voix de Jean-Pierre Pernaut.
Oui, alors, en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que le même quand tu fais des publications, il y a toujours la situation sous-solidée. Peu importe les publications que tu fais. Il y a toujours un
accent gabonais.
Allez, Angelus, on est tous derrière toi. D'ailleurs, fais attention, ça peut faire mal.
Je vais tout faire. Alors, et en fait, donc, alors je vais lire le PDF de Drazioff. En effet, l'histoire de Microsoft. L'histoire de Microsoft, une bien belle tradition qui commence en 1868. Avec les années lycées, après les années collège, les années lycées, les vacances de l'amour et Hélène et les garçons, il y a les années lycées.
En 1868.
C'est l'histoire de deux gamins, le petit Bill Gates, alors âgé de 13 ans, et de Paul Allen, 15 ans. Ils suivent leur scolarité près de Seattle, une bien belle région où le lycée privé de l'ex-Keg School, l'ex-Keg, enfin le côté du lac, quoi, qui s'équipera d'un embryon d'ordinateur. Un ordinateur qui n'était pas pour les PD malgré son nom, le PD-Pédis. Eh oui, le pénis des... Pardon. Alors, sur lequel ils vont découvrir l'informatique et la programmation, c'est magnifique. Et en 68, au lieu d'ériger des barricades comme chez nous, eh bien au moins, ils bossaient, eux. Et ils fondent avec quelques amis le Lakeside Program Group qui se fera suffisamment connaître, notamment en piratant les fichiers gérant le temps d'utilisation de l'ordinateur.
Et c'est une tradition qui est restée au sein de Microsoft.
Il y a des traditions que le hackage. Alors, en effet, notamment, voilà, alors, pour que des sociétés locales fassent appel à leurs services. C'est alors que Bill Gates et Paul partent suivre leurs études chacun de leur côté. Tout en restant en contact étroit, comprenez qu'ils avaient une vie sexuelle assez libre. Durant cette période, ils fondent eux-mêmes une première société avec pour ambition de vendre une solution de contrôle du trafic aux municipalités. En effet, comme on l'a dit tout à l'heure, les municipalités trafiquent. Ensuite, ce sera un échec. Et oui, une bien belle tradition chez Microsoft déjà que l'échec. Mais le mois de janvier 75 va marquer un tournant dans leur carrière, tout juste débutante. En effet, c'est le deuxième chapitre de notre saga de l'été, 1975 Altair 8800, qui n'a rien à voir avec l'assassin du même nom. En effet, Bill Gates... Quoi ? Altair, Assassin's Creed.
Oh putain, d'accord.
Magnifique. Un bien beau jeu.
Sauf que sur PlayStation 3. C'est l'Alter, il n'y a pas de
c'est pas où, il n'y a pas de tréma.
Il n'y a pas de tréma, donc c'est l'Alter. Oui.
Car le tréma est un fameux bateau. Fin comme un oiseau, ICO. Bill Gates découvre en janvier 75 un article présentant l'Altair 8800. L'un des ancêtres les plus influents de la famille des micros ordinateurs compatibles PC. Soit la branche qui a survécu à nos jours. C'est un peu en fait comme les Néandertals, il y en a un qui n'a pas survécu, mais la branche Altair a survécu. Précisons que cette machine fonctionne à base d'interrupteurs qu'il faut actionner pour utiliser, et il était possible de lui ajouter...
Un peu comme un PC à l'heure actuelle où le bouton le plus important c'est pas une touche du clavier ni la touche
C'est la touche. Et il était possible de lui ajouter des cartes d'extension. Elle était construite autour d'un processeur Intel déjà à la base, le 8080 ou 8000 de la famille des processeurs déjà X86, déjà à l'époque. Comme quoi, on n'invente rien. Qui feront
comme
le
quoi,
succès
ça
d'Intel
fait, ça fait 20 ans qu'on n'invente plus rien.
Comme quoi, voilà. Le X86 est une vieille tradition qui ne se perd pas.
Une bien belle tradition que de piquer le matos des autres à la base. Pas dénué d'audace, Bill Gates prend contact avec le créateur de l'Altair, la société MITS, à ne pas confondre avec la société MST, pour lui vendre un langage de programmation destiné à sa machine. L'homme demande une présentation de la chose. C'est alors que Bill Gates, avec ses mœurs délurées, lui présente la chose. Seul problème, ce langage n'existe pas. Les problèmes de Bill Gates.
Erreur 404, langage not found.
Eh oui, la chose n'existe pas. Et les deux larrons n'ont même pas la machine en leur possession, petit filou. Ils ont quelques semaines pour développer leur langage sur un émulateur que conçoit Paul Allen. La légende veut que ce basique ait été terminé peu avant le décollage de l'avion qui les conduisait à la présentation et qui fut mis en route pour la première fois à cette occasion. En fait, ils ne l'avaient jamais testé ni débugué. Encore une belle tradition Windows.
Non, Microsoft, en
Son
général.
Son nom est sans surprise Altair Basic. Afin de concrétiser la vente de l'interpréteur, Gates et Allen créent Microsoft. Alors, micro avec un tiré entre micro et soft en 1975.
Et réalise une tradition qui s'est perdue avec le temps.
Oui, mais réalise un second tour de force commercial cette fois. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre purement et simplement leur langage, ils vendent la licence, donc en gros le droit de l'utiliser.
Il y a une magnifique Van Dytux dans le chat où c'est Paul Allen de Fock. Voilà, j'avais envie de la faire moi aussi depuis un petit quart d'heure.
Sur la laine fraîche, mais je n'avais pas trouvé moi non plus. Alors voilà. Et donc ils restent propriétaires et ils empochent à l'époque $3000 plus $35 par Altair 8800 vendus.
Attends, si j'ai bien Altair, merde.
L'Altair.
Si j'ai bien compris.
Ou les barres parallèles. Oui.
Si j'ai bien compris, Paul Allen et Bill Gates sont Steve Wozniak et Steve Jobs.
C'est un peu l'idée. Alors, tout en travaillant à développer des MST chacun dans leur coin, vu leur sexualité débordante, à Albuquerque. Pour assurer l'évolution du système, Microsoft débotera différentes versions de ce langage premier, destinées à d'autres machines. Le développement du basique sera le cœur de leur activité par la suite, une bien belle tradition qui s'est déconstituée jusque-là. Alors avant le DOS, il y a Unix. Microsoft devient déjà le créateur du standard accepté des machines de programmation pendant qu'une autre société, Digital Research, fournit le système d'exploitation CPM.
Ils ont donc buté froidement les gens d'en face, une tradition qui a perduré encore aujourd'hui.
À la fois chez Bill Gates et à Plouguenec. Bill Gates développe même de ses petites mains le système de fichiers FAT. Et oui, car on sait que tout est lourd dans un Windows. Et qui a évolué jusqu'à nos jours et regarde en coin ce qui se passe chez Apple, qui va connaître le succès avec VisiCalc, une application qui contribuera largement à l'expansion de l'informatique auprès des professionnels. Microsoft développera
des applications... C'est-à-dire l'informatique auprès des prostituées. Hein.
Tout à fait, les professionnels de Mac. Microsoft développera des applications aussi bien pour Apple II, ainsi qu'une carte d'extension permettant de le rendre compatible avec CPM, que pour CPM, justement. Pour Digital Research rompt la cohorte ASCII qui leur permettait de partager le marché de l'applicatif. Microsoft répond en lançant une bombe, mais aussi dans le développement d'un système d'exploitation concurrent basé sur Linux qui s'appelle Xenix. Xenix sera le système d'exploitation accueillant la première version de Word. Et oui, il faut le savoir. Et maintenant, grâce à nous, vous le savez. Une bien belle information. En 10,
une
alors,
tradition qui s'est
troisième chapitre de 1779 à 1982, vers le DOS avec l'IBM PC. En effet, difficile de ne pas s'attarder sur l'IBM PC et l'histoire de dans l'histoire de l'informatique quand on parle de Microsoft, c'est un peu le but. En effet, après avoir tenté sa chance avec des machines fermées, comme il en existait de nombreuses, IBM décide de s'imposer en développant une machine ouverte. La première machine où tu étais obligé de l'ouvrir à chaque fois pour la faire marcher. Une tradition qui se perdure encore avec Windows. Comme il en existe de nombreuses, IBM décide, non, je l'avais déjà fait, les spécifications sont publiées ainsi que d'autres constructeurs puissent produire leurs propres machines. C'est le principe actuel du PC actuel. Oui, d'accord. C'est très actuel, c'est dire si c'est à la pointe de l'actualité. Surtout en 1979. Magnifique, une bien belle idée. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Si là, pour le fournir en logiciel, IBM doit faire appel à... Oui, doit faire appel à, d'une part à Microsoft pour son basique, d'autre part à Digital Research pour le système d'exploitation. Ce dernier se retire finalement du projet pour une histoire de gros sous.
Et on a perdu plein de viewers.
Et en 1980, le contrat revient à Microsoft, qui va justement découvrir le travail de Tim Patterson de Seattle Computer Project, qui en fait a le QDOS, le Quick and Dirty Operating System. Qu'il avait
c'est
fait en classique,
c'est-à-dire système d'exploitation écrit à l'arrache.
Voilà. Et qu'il est trop content de vendre 30 000 dollars, 25 000 dollars à l'époque, alors que les autres vont se faire des milliards dessus.
Attends, mais attends, le Quick and Dirty OS, est-ce qu'il était vraiment Quick and Dirty ou il était vraiment bon?
Il était vraiment fait à l'arrache. Mais c'était le seul qui était disponible à ce moment-là.
D'après toi,
et comme ils avaient rien, ils ont fait, toi tu vends ton truc pour pas cher, on va te l'acheter parce que nous on a que dalle.
Attends, me dis pas qu'ils ont vendu à IBM une merde pareille.
Non, ils ont vendu à IBM un truc qu'ils avaient pas. Ils ont été achetés le truc
c'est
de merde.
C'est après qu'ils ont acheté un truc de merde.
Ils ont vendu
à
IBM le truc de merde.
Mais t'as pas regardé les si Pirates Silicon Valley.
Si, j'ai vu, mais je me souviens plus que
il y a la scène dedans.
Voilà, c'est ça.
En gros, ça veut dire.
Bah, compare le premier MS-DOS et compare une console sous Linux et tu verras la différence entre lequel est le plus merdique.
Donc en gros, Bill Gates, c'est vraiment un génie de businessman, quoi.
Surtout.
Bah, tu vois, hein, comme quoi. Hein.
Alors.
Juste gagner 50 milliards de dollars.
Voilà. En 1980, le contrat revient donc à Microsoft, qui donc leur refile le Quick and Dirty de Patterson, également appelé le 86-DOS. Un système d'exploitation inspiré ou plagié selon les versions de l'histoire de CPM. Microsoft en acquiert les droits, donc non exclusifs, pour 25 000 dollars, et il embauche son créateur et livre PC-DOS à IBM, également appelé MS-DOS pour Microsoft-DOS, forcément. Dans ses autres versions destinées aux compatibles IBM d'autres constructeurs.
Comme dit Thibault, en fait, le QDOS, c'était un OS fait sur le coup de tête par son développeur. En fait, il n'était pas fini. C'est simplement ça. C'est pour ça qu'il s'appelait QDOS au départ. Parce qu'en gros, il l'avait fait à l'arrache. Il l'avait pas fini.
C'est un peu comme s'il avait appelé MyOS version alpha.
C'est ou PofOS.
PofOS.
J'allais le dire.
Alors, le DOS va rapidement devenir le standard de l'époque malgré ses limitations. En effet, l'accord entre IBM et Microsoft sera... je comprends rien, moi. Sera... Ah, magnifique.
Sachez-le, il lit sur iPad, c'est pour ça qu'il galère.
Non, c'est oui, pas galère, c'est qu'on comprend pas ses phrases. Le DOS va devenir rapidement le standard de l'époque malgré ses limitations. L'accord entre IBM et Microsoft sera finalement fatal au premier, c'est-à-dire à IBM, dans le cululu. Si d'un côté IBM voit ses parts de vente baisser au profit d'autres compatibles, en partie à cause du piratage du BIOS, mais c'est une autre histoire, Microsoft n'est plus concerné puisque lui, il peut exploiter sa propre version du DOS sans aucune limite sur d'autres machines. La profusion de compatibles IBM lui est au contraire bénéfique.
Attends, mais Harry Drazioff, il a produit un télévateur de...
Tous les constructeurs ont un besoin commun, la compatibilité, l'unification, et le choix logique pour eux est de passer par Microsoft qui touche des droits d'auteur à chaque vente de son système qui va non seulement se répandre sur les compatibles PC, mais également sur les machines autonomes comme les CPC d'Amstrad. Alors, en 1982, le premier contact avec le jeu, c'est-à-dire Flight Simulator.
Une tradition qui a perduré jusqu'à très très récemment.
Oui, jusqu'à l'an 2001.
Jusqu'à quelque chose comme ça.
En septembre 2001. En septembre.
C'était ta faute.
Non, peut-être.
Ils ont quand même pas arrêté la production de ce jeu.
Non, il y avait eu un Flight Simulator au moins jusqu'en 2006. Quelque chose comme ça.
Non, mais on a toujours encore. Je crois qu'ils vont sortir en 2006.
Non, mais de nouveau, là, le dernier, je crois qu'il date de 2006, mais il me semble. Mais après,
alors, il ne faut pas attendre longtemps pour voir Microsoft s'attaquer aux jeux vidéo. Rapidement, la firme va se lancer dans l'édition, mais on peut remonter encore plus loin. En effet, dès 1979, Microsoft édite, voire développe des jeux restés parfaitement inconnus. Mais l'année 82 marque un tournant important. Microsoft éclaire les doigts de Flight Simulator, développé à la base par Sublogic. Microsoft pourrait utiliser ses droits sur les compatibles PC et IBM. Donc de nouvelles versions sont régulièrement commercialisées.
Rien codé et tout racheté, une tradition qui perdure encore aujourd'hui.
Voilà, des nouvelles versions sont régulièrement commercialisées en parallèle de quelques jeux sans grande importance. En fait, si l'on exclut les hits interplanétaires du bureau que sont le solitaire ou le démineur.
Une nouvelle version qui sort régulièrement, ce n'est pas une tradition de Microsoft qui s'est perdurée.
Et non, pas pour Flight Simulator.
Ah non, pas vraiment.
En 1983, Microsoft, ou plus exactement sa branche japonaise, lance le MSX, un nouveau standard dont les spécificités sont livrées aux constructeurs désirant en produire. C'est un peu logique, sinon ils ne peuvent pas en produire. Sa création répond à un appel d'offres lancé par le gouvernement japonais, souhaitant voir apparaître des machines compatibles entre elles. Et Sony en lançant un, ça sera le MSX. Le MSX fait partie d'une foule d'ordinateurs ayant participé au déclin du marché des consoles de salon. Mais son ambition initiale était de s'imposer comme un nouveau standard qui ne se réalisera jamais. Butant contre le succès du Commodore 64. Eh oui, dommage. Ce qui n'empêchera pas de connaître une certaine popularité, notamment au Japon où de nombreux développeurs feront leur début là-dessus. Comme les plus connus, par exemple, le Konami qui s'est livré le premier volet de Metal Gear sur un MSX, il faut savoir. Metal Gear solide, hein. Enfin, Metal Gear, non, qui n'était pas solide à l'époque, justement.
J'étais
on peut également citer Bomberman ou Puyo Puyo.
C'est mignon, ça, comme nom.
Eh oui. Le MSX fut par ailleurs l'occasion pour Microsoft d'entrevoir les possibilités de distribution des versions de DOS destinées à divers usages. Le MSX-DOS introduit une meilleure gestion des disquettes et un usage plus familial, pendant que la version classique fait le bonheur des entreprises. Affichant 5 millions d'unités écoulées contre 17 pour le C64, le MSX a pu se maintenir... Ah oui, non, 17 millions en fait, c'est pas 17 tout court. C'est 5 millions et 17 millions, donc le MSX a pu se maintenir quelques années avant d'en prendre plein la gueule et de disparaître.
Oh, ils n'en ont vendu que 5 millions, c'est pas beaucoup.
Ensuite, 2,80, putain, c'est bientôt fini, heureusement. Le PDF, une bien belle tradition de merde.
Ouais, par contre, plier des sujets en 2 secondes, une putain de tradition qu'on n'est pas dans la merde.
1985 à 92, c'est de Windows 1.0 à Windows 3.1. En effet, au début des années 80, commence une mini-guerre des systèmes d'exploitation à interface graphique. Sans entrer dans les débats de qui a copié sur qui, comment, pourquoi, on s'en fout, machin. En résumant, qu'en 85, eh ben, Microsoft publie Windows 1.0. Évidemment, les choses ne sont pas si simples. L'histoire des interfaces graphiques démarre avec d'autres protagonistes, comme notamment le Lisa d'Apple, ou peut même remonter à 73 pour trouver les premières mentions de bureaux et de fenêtres manipulables avec une souris sur le Xerox Alto. En photo à gauche, nous n'avons pas la photo. Mais c'est le Macintosh d'Apple qui rendra le principe populaire. Comme quoi, il ne faut pas trop se fier aux idées reçues qui font d'Apple le créateur suprême des OS graphiques. Et non! J'en suis où? On évitera de se lancer dans ce débat. Toujours est-il que Microsoft commercialise Windows 1.0 après des années de développement. Un projet qui à la base était une extension de MS-DOS et qui en gardera d'ailleurs longtemps la trace. Ça, tu m'étonnes. Puisqu'il se lance à partir d'une ligne de commande MS-DOS et fait figurer la gestion graphique de ce dernier. Ensuite, il sera suivi de Windows 2 en 87, puis de Windows 3.0 et 3.11 en 90 et 92. Si Microsoft connaissait déjà le succès, la troisième génération de Windows marque l'explosion de la réussite commerciale de la marque, notamment par le biais des licences OEM, des versions Windows vendues avec un PC neuf. Une attitude qui leur vaut toujours une certaine haine actuelle, en effet, une bien belle tradition qui se poursuit encore actuellement. Entre-temps, Microsoft a développé sa ligne de produits comme la suite Office ou Comworks. Son assise dans le monde de la création d'applications et de systèmes d'exploitation est assurée. Microsoft est déjà un géant. Je finis le chapitre. Ce qui ne veut pas l'empêcher de grandir encore et de multiplier ses produits. Tu peux poser ta question.
Non mais parce que en fait, là, il faut quand même qu'on laisse durer la chronique un petit peu longtemps. Mais
Reste 2 chapitres. Mais une demi-page.
2 chapitres et on est au début en fait. En théorie.
Oui, mais après vous posez les questions.
Ouais, mais bon, là, ce qui est intéressant d'ailleurs, ce qu'il dit, c'est que...
Le monsieur a dit qu'après, on posera les questions.
Ah bon, d'accord.
Voilà.
On écoute.
En 95, DreamWorks Interactive. En effet, Microsoft et DreamWorks SKG, la compagnie de Spielberg et d'autres, dont on ne connaît jamais le nom,
créé
en 95. Vous savez que du coup, il y a deux sociétés du 3D au cinéma, qui DreamWorks, à des, oui, à c'est des Microsoft, contre Pixar, Apple. Steve Jobs.
En 91,
donc
le
c'est
groupe
très drôle.
DreamWorks Interactive, chargé de développer des contenus multimédia et qui produira quelques jeux avant d'être vendu à Electronic Arts en 99 pour devenir.
J'ai regardé des films Windows, non.
C'est le studio à l'origine de la série Medal of Honor. Le premier titre de la série étant signé DreamWorks Interactive. C'est et c'est vrai, je m'en souviens. En 95, Windows 95 et Internet Explorer. Windows, oh putain, non, il y a d'autres pages en fait. Ah non, putain, il y a plein de pages.
Oh putain, 200 pages, l'enculé.
Non, c'est, j'avais deux pages en fait, non, c'est lui qui a un soline de merde. Tu es les boules, 95 donc.
C'est vrai qu'il fait vachement plus chaud de ce côté-là.
95 pages.
95, il y en a 18.
Il attendait à la
95, à la 9ème, j'en sais rien, tout ça au pire.
Ah, c'est bien.
Windows 95 est la nouvelle version majeure de l'OS de Microsoft.
Non mais arrête d'avouer Jean-Pierre
Pardon,
alors justement, je tiens juste à dire que j'ai balancé un sondage. Il y a une personne qui trouve que c'est cool, une autre qui trouve que c'est drôle, et 8 personnes qui disent « Ah, au secours !»
Ah, ils sont suicidés.
Nous allons donc faire version russe. Windows 95, nouvelle version majeure OS Microsoft. Lui apporte changement radical dans l'interface. A commencer par bouton démarrer, qui alimentera bien des vannes de la part des anti-Microsoft. Et même personne qu'on obstine à expliquer qu'un PC est d'une utilisation inventive. La preuve pour arrêter, il suffit de cliquer sur démarrer. Grande blague qu'a fait rire Joseph Staline. Pour beaucoup, c'est un symbole du manque d'ergonomie des produits Microsoft. Mais dans les faits, Microsoft 95, grand succès, il y remporte.
Vas-y, maintenant faire avec l'accent gabonais.
Mais j'ai pas l'accent gabonais.
L'accent africain.
Alors, mais curieusement, la première version de Microsoft 95 est livrée sans navigateur internet.
Là, faut que tu balances la Google version radio.
C'est Radio Bourgeoisie.
Mais non, c'est pas.
Façon Radio Bourgeoisie.
Microsoft n'ayant absolument pas prévu l'explosion du multimédia à l'époque, il n'a pas de navigateur. Donc pour le net, dans le cululu.
Tu peux parler façon radio bourgeoisie, mais parler plus fort.
Alors donc, il achète donc les premières versions d'Internet Explorer.
On a fait Jean-Pierre Bernard.
Non mais c'était parce que racheter des trucs, une bien belle tradition. Alors, Microsoft livrera le navigateur gratuitement dans le système d'exploitation.
Ça, tu peux le faire avec la musique des chants d'église.
Une stratégie qui lui rendra de tomber sous le coup des lois antitrust, comme ce sera le cas en Europe avec son Media Player livré en standard avec XP. Windows 95 sera suivi par la volonté du père de Windows 98 et de Windows 2000, destinés aux professionnels. En vérité, je vous le dis, au fil des versions, Windows embarquera de plus en plus de fonctions et d'applications annexes.
Amen.
C'est précisément ce que l'on reprochera à Microsoft, fournir aux utilisateurs des solutions complètes provenant de lui seul, sans laisser de place à la concurrence.
Amen. Je t'arrête juste pour te dire que je trouve que...
Faut savoir qu'il y a finalement, c'était mieux.
Et là, c'est mieux. Alors, il y a 6 DA... de tout à l'heure.
Mais tu fais génial.
Des combien de miettes?
Tu fais des freakpoles en fait.
Non,
c'est ça,
c'est pas des freakpoles, c'est le sondage intégral du stream. Il y a un bout et il y a 7. Putain, mais abattez-le.
Alors, mais je sais pas faire la voix putain, mais abattez-le.
Mais tu peux pas faire genre voix africaine ou quoi,
voix allemande. Mais putain, abattez-le.
Ah oui, la voix allemande, je peux faire.
La voix allemande.
Pour célébrer les nouveaux millénaires, Microsoft sort Windows Millennium Edition, dit ME. Ce sera un bide. Ah, qui livrera un torrent de critiques.
Ah, le bide, une tradition qui se perdure en
plein. Ah, qui se perdure sur le front russe.
Il y a version Sarko aussi, on demande.
On lui reproche son manque d'instabilité. On lui reproche son manque d'instabilité, ses crashs et brigands et ses difficultés d'installation.
Et là, on part sur l'accent gabonais.
Il sera rapidement suivi par un Windows XP qui a su conquérir les publics après bien des corrections et qui reste aujourd'hui le support de choix des joueurs baisés.
Des joueurs baisés.
Baisés par rapport.
Ça n'avait pas à dire. Ah oui, il faut que j'ai un truc. En 2000, c'est une annonce pour les gamers. En effet, c'est l'annonce de la Xbox. Ah. Ah, une chouine machine. En effet, les premières rumeurs concernant la Xbox remontent à 99. Mais ce n'est qu'en 2000 que Microsoft finit par annoncer officiellement sa machine sous le nom dont le nom s'est gay à l'époque d'un trait d'union. À l'époque, il y avait un trait d'union entre le X
une
et le
une tradition Xbox. Qui date de du nom de Microsoft lui-même.
Il y a quatre pages d'essai là.
Il y a Gugus qui demande une version Eric Cantona.
Tiens, Eric Cantona. Ah non, c'est pas Bill Gates, à la DGC. La machine ne laissera plus d'un sceptique. Microsoft, il n'est pas constructeur. À l'exception d'accessoires de jeu.
Par contre, Raulito veut du Gilux, lui.
Les premières informations sur la machine, elles font passer un PC encastré. Et là, le public, il aime pas.
Et quand on a non plus.
Je fais une machine. Tu construis. Qu'est-ce que tu vois? Un PC. Or, à l'époque, l'illusion selon laquelle une console doit s'imposer au Japon pour survivre me fait penser que j'ai sauté des lignes.
Alors, c'est bien, il y a un truc qui colle pas, là.
Ah voilà, le pire, c'est que c'est même pas une console japonaise. Or à l'époque, l'illusion selon laquelle la console doit s'imposer au Japon pour survivre est encore tenace. Et les tendances protectionnistes du pays du soleil levant, elles laissent peu de chance à Microsoft.
Une version mafia, on demande une version pas. Hein.
C'est assez proche d'Eric Cantona, il va un peu en chier à faire la transition là, quoi. Ouais. Je tiens à dire. Une version sicilienne.
Ouais, non, c'est plus.
Ouais.
Ouais.
Siffle bien, dis donc.
Ah oui, il siffle pas mal. Tu vois, c'est presque l'accent de la Sicile. Alors, pourtant Bill Gates, il annonce à l'époque que sa Xbox, elle marquera l'industrie et elle va transformer le marché.
C'est une offre.
Et là, tout le monde y prend peur, parce que Bill Gates, c'est quand même un peu le parrain. Alors, quand on se penche sur tout ce qui est loin d'être négligeable, je comprends plus rien à ce que je lis, du coup. Longtemps, la machine restera pratiquement perçue comme une chimère. Et un projet à être prêt à être annulé pour un oui ou pour un non. Mais sa présence à l'E3 se limitant seulement à des démos techniques, elle n'arrêtera pas à faire courir sa substance. Pourtant, Microsoft, de son côté, il chôme pas. En effet, il apporte le soutien des éditeurs, il le reçoit. Et en plus, des nombreux et prestigieux. Un seul Hiroshima à travailler.
Au pire, c'est que ça marche bien, c'est
Electronic Arts. C'est Electronic Arts. Alors Microsoft, il devrait le convaincre. En lui faisant pas moins de 500 kits de développement.
Il y a Le Pen, on propose.
Et des accords avec certains éditeurs japonais. Lui assure d'avoir quelques tritons capables de conduire le public nippon. Malgré tout, Sony et Nintendo. Plongé dans la PS2 et leur GameCube ne lui accorde pas la moindre attention.
Alors, il propose Chirac.
Et un peu partout. Le buzz augmente. Et il n'y a pas marqué.
Il n'y a pas marqué Laurent Gérard.
Ouais, c'est ça, c'est que ça
fait. Marqué, tu devrais te faire plus souvent de l'imitation. Parce que tout ça.
Et Nintendo plongé.
On me demande aussi une version Mario.
Une version Mario.
Ah, oui, malgré tout, Sony Nintendo, ils arrivent à plonger dans la PS2 et la GameCube, oui, ils apportent pas vraiment de rotation, un peu partout, le PC l'augmente, oui, et la Xbox elle commence à susciter, mais nous Nintendo n'a pas eu peur.
Oh, le pire c'est qu'elle n'a pas l'enthousiasme,
si, il est fonctionnel de noter qu'en 2000, que si Microsoft il a fait un affaire de choix, c'est Bungie Studio. Et Bungie Studio, ils vont tout poutrer. Avec le FPS. Le FPS qui était à la base, il était fait pour le Mac. Il s'appelle Halo. Halo. Voilà. En 2000.
Non, j'ai pas l'accent ch'ting que j'ai fait. Ah oui, j'ai pas fait l'accent. L'accent il va bien. Alors en 2000. Hein. Et quand même, le problème des images et les spécificités définitives. En effet, jusqu'en janvier 2001, le 6, et bien personne n'avait encore vu la Xbox. Et non. Ni même des jeux Xbox d'ailleurs. Et c'est qu'à l'occasion du CES 2001, que les premières images de la console, et bien elles sont dévoilées. Ouais. En effet, des images qui laissent perplexe en plus le design de la machine, elle aurait du mal à convaincre. Même après son lancement, parce que c'est quand même un truc un peu massif.
Ah, on demande québécois. Surtout que pour la lancer, la Xbox, fallait y aller, ça faisait son
poids. Arborant des livres grossières, équipés d'un pad gigantesque qui sera d'ailleurs rapidement secondé d'une version plus petite. C'est vrai qu'à la base, le pad, il était énorme, et tu pouvais pas t'en servir.
Le pad, tu pouvais t'en servir de tabouret. Je m'en servais de tabouret de table basse.
Et de plus, ses chances de conserver, de conquérir le marché japonais étaient d'une fois de plus mises en doute. C'est cette fois la taille qui est en question. Les Japonais, ils aiment les petits objets qui rentrent dans leur petit appartement. Et là, ils
auraient dû laisser une petite pause avant l'appartement, ça aurait été sympa.
Alors, en 2001, c'est le lancement US. Car en novembre 2001,
Bill Gates, il participe lui-même au lancement de la console à Times Square.
En courant comme une tapette.
Non, c'était pas dans celui-là d'ailleurs.
Si, c'était dans celui-là, il me semble.
Si, si, justement.
Et si on rapproche toujours l'Xbox d'être moche, je suis reparti sur le Sicilia. C'est la matière économique et surtout d'être cher.
Et là, il repart en Pernod.
Mais la Xbox a fait un bon démarrage sur son territoire, avec 1 million de machines vendues à 3 par semaine. Des titres comme Halo ou le premier Project Gotham Racing, elles sont d'excellentes vitrines. Pour autant, elle reste seconde place derrière la PS2, mais elle va tenir tête à Nintendo. L'outsider auquel personne ne croyait s'en sort mieux que prévu. En février 2010, c'est le lancement au Japon.
C'est marrant parce que pourquoi l'accent africain quand on part du Japon? Aucune idée.
C'est pas d'ailleurs qu'on te demande l'africain, tu dis que tu peux pas le faire.
Alors.
Tu
ne
peux pas tenter un accent japonais.
Non. Dans un instant américain, cette zone, la Xbox, elle doit affronter des territoires un peu plus hostiles. Oui, c'est la jungle. C'est la jungle, les territoires du Japon pour la
console. Il y a quelqu'un qui aimait mieux la version Pro URSS.
C'est-à-dire, la version Bertrand Scellé pourrait être pas mal aussi.
C'est quoi la version Bertrand Scellé?
Bah, tu parles en anglais, mais.
Mais t'as un putain d'accent français à couper au couteau.
C'est même pas un accent français, quoi.
Mais là, tout le texte est en français. Ça sent un peu. Conscient de l'impopularité de la machine, Microsoft va en rendre compte les retours, va prendre en compte les retours et proposer un pad spécifiquement destiné au Japon et à leur petite main de merde. Un geste louable mais qui va s'accompagner d'une série de bourdes. En effet, le pad S ou contrôleur S,
une belle tradition,
version plus petite de la manette originale qui finira par être livrée avec toutes les consoles, sera présenté comme une révision conçue pour les gens ayant de petites mains. C'était marqué. Est vendu par le biais d'une magnifique image sur laquelle on peut voir Bill Gates tenant un Hades dans une main et un burger dans l'autre. Cette photo devenue particulièrement difficile à retrouver sur le net et qu'on ne devrait donc jamais supprimer de son disque dur. Plus tard.
En fait, c'est juste que la première version, c'était les mains de Chabal, le modèle.
Plus tard, lorsque le joueur se plaindront que le Xbox raye les DVD des jeux, Monsieur Guest répondra qu'ils ont qu'à les tenir correctement. Ah non, c'est pas lui. Le pire, c'est que c'est ça. Monsieur Guest répondra que si on s'en sert correctement, ce n'est pas le cas.
On te propose une version Nelson Montfort, mais en français,
oui,
et tu n'importe quoi en anglais.
Oui, Patrick, une belle version. Un sous-entendu joueur japonais. Je suis sûr, japonais ne savent pas se servir de leur console. Se servir de la console. En effet, oui, alors, dans le jargon, on appelle ça une public relation disaster, un disaster dans la public relation. En effet, oui, Patrick, 10 jours après son lancement, la Xbox est bradée pour certaines enseignes qui font écouler leur stock. L'Xbox première du nom ne décollera jamais au Japon. Ses ventes en extraterrestre, 2 millions au total, 2 millions. Ce qui, en dépit de quelques critiques, pourtant tout à fait apte à séduire le public nippon, comme Panzer Dragoon Horta, que l'on pourrait traduire par Panzer Dragoon Horta, ou l'excellent Jet Set Radio, la radio de la Jet Set.
Et le 12e point Goldwin.
Ah, mais Panzer, j'ai pas rien, c'est le titre.
Mars
2002, le lancement européen. Bienvenue, welcome, bienvenito.
Ah là, il fait le truc d'avion, là. Le pilote d'avion.
L'Europe est un territoire plus chaleureux pour la machine de Microsoft. Si la
température extérieure est...
si la PS2... voilà. Alors, attends, comment dire? Il me faudrait mon téléphone, en fait. Donc, si la PS2, eh bien, elle s'en sort bien, la Xbox, je crois que non. Je dis ça dès que je vais retrouver mes notes. En effet, elle s'en tire quand même un peu avec les honneurs, mais son prix de lancement à 479€ est jugé exorbitant par de nombreux joueurs et freine son développement. Microsoft va donc réagir comme il a toujours fait, à coup de millions de dollars dans ta gueule. Je n'ai pas soif, non, ça va, puis au pire, je ne boirai pas ça. Mais je voudrais bien encore mon téléphone que j'ai réclamé il y a 5 minutes. La valse des prix et la politique de rentabilité zéro. En effet.
Je pense qu'en fait, il lui a tapé commande quelque chose, et puis en fait,
Non, il a tapé comme d'habitude, surtout.
Moins d'un mois après son lancement européen, la Xbox va commencer à être l'objet d'offres promotionnelles, des coupons, des réductions, des packs et tout ça, et d'une succession de baisses de prix. À peine un an après sa sortie, son prix a été baissé de moitié. Qu'importe la rentabilité, il est clair qu'aujourd'hui que l'enjeu pour Microsoft n'a jamais été de gagner de l'argent avec Xbox, mais simplement de se placer sur le marché. Les constructeurs ayant tenté d'entrer dans l'industrie ont échoué parce qu'ils perdaient de l'argent et ne passaient pas le seuil de la rentabilité.
Ça arrive toujours à...
Microsoft là, il n'a pas peur. Ce genre de préoccupation. Faites entrer l'accusé. Maintenir la console en région à n'importe quel prix leur permet de s'entrer dans le marché du jeu, d'habituer les consommateurs à leur présence, d'imposer leur conception de la convergence. La Xbox est pratiquement un media center avec son disque dur. Et ça, personne ne l'a vu venir. De plus, lancer le Xbox Live est le seul but de la machine. Hein, je comprends rien à cette phrase. En fait, il y a plein de trucs cool et personne n'avait vu venir. Durant son exploitation, la plateforme Xbox n'a jamais été dans le black. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que même si elle engrangeait pas de la thune, elle n'en perdait pas. En 2005, avant la fin de sa vie de console, Microsoft a déjà perdu plus de 4 milliards de dollars dans l'affaire. Mais aucune autre compagnie n'aurait pu encaisser un coup pareil dans le simple but de préparer sa prochaine machine.
Oh my god!
2003. Quand Microsoft
2003.
Voulait s'offrir Nintendo. Et la vérité n'a sans doute jamais été connue. La légende veut qu'avant même la sortie de la Xbox...
Alors là, il va falloir que tu te rapproches de ton micro, parce que là, les gens, ils vont galérer.
Microsoft aurait souhaité faire l'acquisition de Nintendo.
Microsoft voulait Nintendo.
Je fais
la traduction québécoise.
Mais fais bon québécois, tiens directement, j'en ai marre de lire ça.
Vas-y, tu vas faire
2003.
T'as ramené ta gueule, fallait faire.
C'était le but. T'en étais où alors?
2003, tu repars à 2003 quand Microsoft voulait s'offrir.
Attends, parce que l'accent québécois sur une longue durée, c'est compliqué.
Oui, bah tiens, sur une longue durée, ça fait juste demi-heure, je suis en train de lire.
Connard. Ouais, c'est pas faux en plus.
En fait, c'est pas vrai, ça fait juste 20 minutes.
Non, ça fait vraiment une demi-heure.
Ah merde, ça fait une demi-heure. Oui, c'est bon, on est à moins de quart, on a changé de sujet comme des cons.
Alors. Si la vérité ne sera sans doute jamais connue, la légende veut qu'avant même la sortie de l'Xbox.
Il est vachement moins bien.
Alors. Ah, c'est ce qui est révélé le livre Opening the Xbox. C'est parce qu'il parle bien.
Faut ouvrir la Xbox.
Voilà, faut ouvrir la Xbox.
Faut ouvrir la boîte à ex.
L'offre de Bill Gates, je fais super mal.
Faut ouvrir la boîte à ex. C'est-à-dire, faut ouvrir la boîte à porno.
La boîte à fond de calibre. Je
prends des mains, t'as petit whisky là.
Avec les éclats, les valseuses qui traînent dans la couloir.
Bill Gates a été pris pour une joke. Par Game of Shield, Pédigène Nintendo.
C'est énorme.
Il aurait rencontré Bill Gates à une reprise. Et il a fallu un patron. L'idée discutée était d'abandonner le projet GameCube.
On comprend qu'on a le texte, c'est normal, c'est le principe de l'accent québécois. C'est
une magnitude de la Xbox, mais également la Dreamcast.
C'est très bien. Qu'est-ce que vous dites?
Non, c'est la machine à rêve. C'est la diffusion de rêve, la Dreamcast.
On comprend que dalle.
C'est un peu des jeux de Sega America.
Mais qu'est-ce que c'est?
Il confirmera donc en 2003, alors que la Xbox 360,
Allons, c'est qu'il y a un papy là!
360!
Ah, mais pourquoi il tourne les pages tout le temps, lui?
Non, on gueule aussi avec l'action québécoise, monsieur.
Ah, pourquoi attendre
la tourne de la
poche? Oh, tabernacle, elle tourne la poche!
Pourquoi que la tempête, elle tourne les pages sur le sort? C'est super, c'est un mélange de québécois et d'accent Jean-Pierre Pernaud. Le Jean-Pierre Pernaud québécois.
Alors que l'Xbox 360 était déjà connu sur le projet Noxano. Microsoft envisageait toujours la possibilité d'un rachat de Nintendo.
Nintendo québécois, c'est énorme.
Nintendo. McAlevey fut laissé de côté au profit de la mise en œuvre d'une stratégie de conquête de salon par le biais de multimédia.
J'arrive, je sais quoi, moi.
Et entertainment. Une stratégie faisant. Je mélange tous les accents là.
C'est pas grave, continue, enchaîne.
Écoute, l'accent improbable. Hein. Une stratégie visant à virer son œuvre pour imposer un.
Québécois bourré, ça.
Non, c'est le j'ai pas de sous et des mois.
Mais qui ne s'arrête pas là, Microsoft souhaitait imposer des standards s'appliquant également aux jeux vidéo sur PC que tu achètes quand tu as des sous. Moi, j'ai pas de sous.
Pour avant l'arrivée de la Xbox 360, Microsoft a annoncé son label Games for Windows et là, ça repart sur le québécois.
C'est mieux, non, mais tu dois aller sur du québécois.
Un label très critiqué représentant une sorte de mème sur l'éditeur sur le marché du GPC.
J'adore l'accent québécois.
Totalement indépendant. Le constructeur n'existe ni label ni code de développement spécifique et encore moins de développement sur PC.
J'ai perdu le petit truc qui fait que c'est vraiment du québécois.
C'est pas grave, ça va la faire.
Et les airs roulés.
Oh, t'as continué à comprendre, mais ça prend.
Ça dit, oui, on arrive à comprendre, mais ça prend 100% des pros du cerveau. Mais comment on y arrive?
Certains ils voient donc une façon d'imposer, je sais plus que.
Leur vision de Nintendo.
De Windows Vista. Windows Vista. Putain, il y a vraiment beaucoup de pages là quand même. On en est qu'à la moitié.
Je peux prendre la suite.
Vas-y,
prends la suite. Bien faire aussi.
Parce que là, on en est à la moitié. C'est.
C'est où qu'on en était où? Parce que du coup.
La phrase en grand.
Label Games for Windows s'obtient en respectant les règles de critères ci-dessous, c'était ça?
Je ne sais pas.
Je t'en fiche, personne ne les suit.
C'était pas ensuite en 2007 que Microsoft introduit son Games for Windows Live. Qu'est-ce donc simplement la transposition du PC sur Xbox Live? Oui, en fait, ce que vous savez pas, c'est que c'est une version piratée en québécois. Donc, tous les trucs qui sont en anglais, je les prononce avec un putain d'accent.
C'est ça.
Alors, un service qui offre exactement les mêmes possibilités, à savoir la création d'une identité qui peut être partagée avec le live de la Xbox 360. Une liste d'amis, du chat, de la gestion des jeux en ligne, selon de multiples critères, etc. Le tout avec une interface très inspirée par son pendant console, affichant d'ailleurs les touches de la Xbox 360. Un design très loin de plaire aux joueurs PC qui n'ont jamais apprécié qu'on leur offre une interface importée. Pour promouvoir le service, Microsoft fait appel à des jeux Halo 2 et Shadowrun, deux titres qui ne tourneront plus que sous Windows Vista. Depuis son lancement, la série n'a jamais intéressé les joueurs PC ou très peu. De plus, le jeu arrive avec presque 3 ans de retard et il est complètement dépassé.
Quoi? Non, ils ne le font pas.
Non, mais je m'en fous, mais je continue comme ça parce que c'est plus simple.
Là, on va manger au McDonald's.
C'est ça. Complètement dépassé. Quant à Shadowrun, il s'agit d'un concept qui mélange jeu de rôle et FPS en ligne graphiquement. Graphiquement et ludiquement limité, pardon. Mais son problème est surtout de faire appel à deux des fonctions les plus rejetées par la communauté PC. En premier lieu, il impose la souscription à un abonnement live pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités en ligne, y compris le simple chat. Une hérésie sur PC où seuls les meporgs parviennent à justifier un abonnement pendant que tous les FPS proposent... Meporg.
Non, Morpog non plus, Gondavi.
Ah, c'est possible. Pendant que tous les FPS proposent ce genre de service gratuitement. De plus, parmi ces options, se trouve la possibilité d'affronter les joueurs console.
Alors, t'as Raoulito qui dit c'est bien celui qui imite le feel good.
Magnifique, Raoulito. Je te remercie. Bonjour à toi dans ta Russie natale. Alors, une opportunité qui fera un flop monumental. En 2008, Microsoft reviendra sur cette politique en abandonnant toute forme de subscription pour rendre l'ensemble des fonctionnalités live gratuites, afin de retravailler l'interface du service de façon à le rendre en plus en adéquation avec le support PC.
Et mon oncle Phil ne peut pas s'occuper sous celle des enfants.
Xbox est le cercle de la mort. En novembre 2005, Microsoft mettra en vente la console qui cache dans ses cartons depuis 2003 sous le nom de Xenon. Quoi ? D'accord. Qui deviendra ensuite Xbox 360. En mars 2005, Microsoft lance la machine à pub par le biais d'une campagne virale avant de présenter la machine en grande pompe à vélo sur MTV en mai 2005. La console arrive en boutique en novembre aux States, puis en décembre en Europe et au Japon. Microsoft fait le premier pas de la nouvelle génération et prendre de l'avance à un price. Même si c'est, plus je vais rajouter des mots. Même si ces chaînes de production tournent à plein régime, Microsoft n'a pas eu le temps de produire suffisamment de machines et les ruptures de stock sont fréquentes au lancement. Un problème pineux en Europe et en Amérique du Nord, mais pas au Japon où la console fait un flop retentissant. Plus ennuyeux. Plus ennuyeux, et dès les premiers jours de commercialisation, on entend parler de défaillance, de surchauffe, de crash. Une tradition qui date déjà de il y a longtemps et qui perdure encore à l'heure actuelle.
Une tradition perpétuée.
C'est ça. Il ne faudra pas attendre longtemps pour découvrir que les 4 LED entourant le bouton power de la machine servent à afficher des messages. Notamment celui annonçant une panne générale du système, surnommée The Red Ring of the Death, ou encore RROD, la mort de la console. Face à tant de mauvaises pubs, Microsoft va déployer un service après-vente boosté aux amphétamines, échange de matériel, extension de garantie rétroactive, etc.
Mais le mal est... surnommé aussi chez les joueurs le « Ah putain, fait chier
!» Voilà. putain de merde.
Ta console, elle est niquée.
C'est le « Hé, t'es au chiotte, ta console, elle marche plus !»
Comment c'est quoi le petit bouton rouge? Pourquoi c'est tout rouge autour du bouton?
Ah merde! Ça me fait chier, bah ça tombe bien! Alors, ouais, mais le mal est fait.
Vu Xbox 360, ça arrivait toutes les demi-heures.
Mais le mal est fait et la console traînera longtemps une image bancale. Un peu comme une chaise Ikea. D'autant que si on n'a jamais réellement connu la raison de la défaillance générale, si ce n'est. Que c'est de la tradition, ni sa fréquence réelle, de nombreuses sources indiquaient un défaut de conception. Les modifications apportées à la carte mère de la machine semblent d'ailleurs confirmer l'idée. Blu-ray contre HD DVD ne se prononce pas. Et je vais passer ça à Lened.
Alors je vais essayer de le faire. Alors il y a combien de pages hein?
Beaucoup.
Il revient.
Oh my god.
Oh my fucking god.
Le tissu PC, Microsoft avait changé le code HD DVD de sa console, le code tutoriel s'est monté plus d'un. Pour lui, les DVD suffisent en matière de jeu. C'est-à-dire le fait que les Blu-ray, si l'offre un stockage accru, souffrent de temps d'accès au disque jugé tout au long.
En absence d'un lecteur
plus. Je ne comprends plus rien.
Microsoft décide donc d'éviter ce format et s'évite ainsi un secours with the integration avec l'intégration of the Super Physique HD. Mais il a conscience que les machines sur la PS3, PS3, Xbox 360, The Xbox 360,
The Xbox 360.
Ouais, sont des stations multimédia assumant...
Non mais sinon, tu peux juste parler normalement.
Alors, assumant la position prise sur le marché PC.
On en a quel accent là? Ah non, on sait pas, l'accent de le mettre quand il pète un câble.
Assumant
il est en train de craquer son slip, je confirme.
Assumant la prise de position prise sur le marché PC, ils proposent donc, sans visiblement y croire... Attends, je vais faire ton documentaire Arte. Ils proposent, visiblement sans y croire, un lecteur HD DVD externe.
Et là, c'est ça, drame. Ça c'est M6.
Ouais, c'est ça.
Après des ventes fatalement calamiteuses. Et là... C'est le drame. Ils font en larmes.
Merde. Difficile.
Merde. C'est le drame. Ils font en larmes. Et on entend. Merde.
Difficile pourtant d'y voir un échec, car on peut gagner que la firme avait depuis encore opté pour un accès en ligne à la vidéo HD.
Et le là, fouet, le fouet le il reprend du faux gel, le fouet. Le
non,
fouet.
Non, c'est juste la voix de femme.
Merde, je suis pas sur le bon truc.
Le fouet, s'il te plaît. Voilà, c'est...
Le fouet mais sur la main depuis la Xbox, c'est quoi?
Dans le micro.
Et il y a quand même des gens qui disent on est à quel accent là?
HDE. Mais je suis d'accord, mais ses parents ne sont pas du même avis.
Et continue d'étoffer son offre en suivant la tendance forte du moment, la diffusion numérique ou dématérialisée. L'absence de lecteur Blu-ray n'est donc pas un frein à l'accès au film. Bon, machin. On zappe. Elle permet d'y plonger sans avoir à y investir. En revanche, le géant commet une erreur sur ses premières séries de machines privées de port HDMI, le standard indispensable dans ce domaine est bridé en résolution. Une des vues qui sera ensuite corrigée sur les nouveaux modèles. Et aujourd'hui, donc nouveau chapitre, dernier chapitre, avant les dates à retenir qui sont...
peut-être rendre Angelus pour le dernier chapitre. Histoire de boucler la boucle.
Eh oui, on va boucler la boucle.
D'ailleurs, c'est assez drôle parce que...
Une bien belle tradition que de reprendre l'accent du début.
Tradition qui vient de Plouguenec.
À présent, une bien belle tradition qui nous vient de Plouguenec.
À présent,
Microsoft, comme son frère ennemi Sony, se dit vainqueur de la guerre des consoles HD. En effet, les deux bougres sont distancés par Nintendo. Ils ne peuvent plus que se tirer la bourre dans leur coin en se partageant le marché HD. Microsoft se révèle l'Amérique, Sony sort sur sa popularité en Europe. Tous les deux traînent la patte au Japon. Et oui, bien sûr que sur ce terrain précis, Microsoft a des difficultés encore plus sérieuses que Sony. La guerre HD est terminée. Elle devait, selon les deux constructeurs, déterminer qui serait le vainqueur. Or au final, tout le monde a gagné.
Et oui, c'est Youpiland. D'une façon ou d'une autre.
Tout le monde a gagné, en fait.
Je sais pas, moi je lis. Pire, ce n'est finalement pas la haute définition qui a remporté un fabricant au sommet des CAM, enfin qui a fait qu'il y ait un gagnant, mais du coup, parce qu'ils se sont tous fait poutrer par la Wiimote, par la Wii. Du coup, Microsoft se tourne vers Natal et Sony vers le Motion Controller. De nous. Comment ça offert? Eh ben c'est toi. Je te signale que c'est toi qui as le truc devant le nez.
C'est ton Chromium qui s'est vautré la gueule.
Bah on m'a dit prends autre chose que Safari.
J'ai pas dit prendre un Chrome tout bugué, je t'ai dit.
Attends,
Chrome.
Mais attends, c'est assez marrant de voir que quand même.
Sans raison en plus.
J'ai dit qu'il fallait utiliser Firefox qui est super robuste. Et personne m'écoute depuis le début.
C'est normal qu'il est super robuste, il prend toute la mémoire disponible sur le.
Bah justement.
Alors, j'attends la suite.
On peut refaire broadcast, c'est bon.
Et de toute façon, on est diffusé sur la radio.
Mais j'attends qu'on soit vraiment en air.
On est en air, là.
On est en air ? Comme Yvette ?
C'est en air.
Si on est en air comme Yvette, j'y retourne. Alors, en effet, chez Microsoft, on se tourne vers Natal pour aussi concurrencer la Wiimote. Et chez Sony, on a le Motion Controller. De nouvelles façons de jouer qui viennent directement taper sur Nintendo, justement. Et l'argument de guerre que personne n'avait venir et qui a raflé la mise, c'est en fait l'ergonomie et la facilité d'utilisation. Et voilà, c'est la fin.
Ergonomie.
Et il est 30 et vous vous barrez comme des chacals comme là. Merci.
Voilà, donc normalement, il reste une demi-heure avant le prochain sujet, mais donc on a encore une demi-heure à combler.
Allez, me montrer la gueule.
Et vous voulez vraiment pas nous aider? Parce que c'est pas que j'en ai un peu marre de meubler à chaque fois que tout le monde se barre, mais.
Là, je suis avec toi, t'inquiète pas.
Bon, le meuble, tu fais les. Non, j'ai jeté les papiers carambar.
Quoi?
Les devinettes carambar.
Ouais.
Alors, faisons un tour au niveau du chat, sachant qu'on est, on est presque à mi-chemin, pas trop, non, parce que ça fera que. 12 et 12, ça fera que 24, il manquera 4 heures. Voilà, tu peux relire la fin, il n'y avait plus de son. J'ai relu la fin, mais est-ce qu'il y en a qui manquaient vraiment la fin?
De toute façon, avec ton son de Jean-Pierre Fernaud, on n'a rien
compris. Je refais la fin. Étant donné, en plus, ça va nous permettre de meubler, même si ça dure que 5 minutes. Alors, en fait, on va vous dire que Microsoft et son frère ennemi Sony se disent tous les deux vainqueurs de la guerre des consoles HD, mais en fait, ils se sont fait poutrer tous les deux par Nintendo. Et du coup, ils ne peuvent plus que se tirer la bourse sur le marché des consoles HD. Microsoft se réservant principalement l'Amérique et Sony l'Europe, parce qu'ils galèrent encore un peu tous les deux au Japon, même si pour Microsoft, c'est quand même un peu plus pire. Oui, ça ne se dit pas, mais c'est l'idée, que pour Sony. Alors, la guerre du HD, à première vue, elle est terminée, parce que comme ils se sont fait poutrer tous les deux sur le côté interface, tout ça, avec facilité d'utilisation avec la Wii, Microsoft se tourne de son côté vers le Kinect.
Et ça, ça se dit au bowling.
De quoi?
Je sais pas.
Un peu, je sais pas. Ça va donc, ça, il se tourne vers le Kinect et Sony vers le Motion Controller, de nouvelles façons d'interagir qui sont directement pompées sur la Wiimote. Voilà. Donc finalement, les nouvelles consoles, elles ne seront pas battues sur le marché de l'HD, mais en fait, plus sur le marché de l'interaction. Et voilà, c'était donc la fin.
Alors, qu'il avait envie de dire quelque chose.
Alors, je tiens à dire que ce qui manque quand même, c'est les méga flops de Microsoft.
Tout à fait, il y en a eu pas mal.
Et il y en a eu un sacré.
C'est une bien belle tradition.
C'est une bien belle tradition, mais on va pas tout de suite faire les flops, parce que sinon on va vraiment passer pour des Apple fanboys que nous sommes et que nous assumons être d'ailleurs.
Moi ce qui est intéressant de voir quand même, c'est, là j'en reparlais tout à l'heure, c'est le fait que Microsoft ne fasse des profits que dans la division Windows et la division Office.
Alors, faut arrêter avec l'accent de Jean-Pierre Pernaut, ça commence à être fatigant.
Oui donc.
Non, mais parce que flops. 27 heures d'accent de Jean-Pierre Pernaut, on va pas survivre les gars.
Quels sont-ils?
Bah, les flops, ils sont de plus en plus souvent récemment, je sais pas si t'as remarqué.
Allez, le chat, vas-y, donnez-nous des flops.
Seven quand même, il faut quoi? Le dire.
Qu'est-ce que
je dis, ça va un peu mieux avec Seven.
Ça va un peu mieux avec Seven, mais bon, oui, Microsoft, on vient de le voir, ce n'est pas qu'un système d'exploitation.
Courrier d'idée de Thibaut comme flop.
Effectivement, courrier, bah, quoique il y a le libretto finalement qui reprend courrier.
Ouais, il y en a pas mal. Il y a Kin.
Le Kin est un vrai flop. Le
Kin, oui, mais nous en avons parlé.
Le Zune, oui, le premier, attends, ouais, le HD a l'air de pas mal se sortir aux États-Unis.
J'ai juste un truc à faire. Le Neb, tu peux arrêter de, dès qu'on a un sujet, de dire, eh ben ça, on en a déjà parlé, ou bon, on en a fait le tour, ou je crois qu'on a fini le sujet.
Dans parce les cas, vous êtes trop des merdes.
Parce que je pense qu'en fait, c'est un peu contre-productif pour arriver à meubler. Enfin, il me semble, hein, je suis pas sûr là, mais il me semble qu'on va avoir du mal à meubler si à chaque fois qu'on lance un sujet.
Ouais, Windows Millennium, c'est vrai que Windows Millennium, c'était un peu
beaucoup de merde. Mais qu'est-ce qui se passe avec Windows Millennium? Je comprends pas pourquoi c'était.
Alors, en fait, Windows Millennium, je crois que c'était la dernière mouture sur la branche 9X, en fait. La branche 9X, c'était là, une branche qui était séparée de la branche dite NT, qui a donné ensuite, bah, qui s'est fusionné au niveau de Windows XP. T'avais la branche Windows 95, 98 et donc Millennium qui était à l'époque fait pour le consumer, c'est-à-dire le grand public. Et t'avais les versions pro qui étaient sous NT. NT4 étant celui le plus connu, Windows 2000 aussi étant assez connu, étant sous le noyau NT. Et après, quand ils ont fait XP, quand ils ont vu que la gueule que ça avait Millennium, ils se sont dit, bon, bah, pour XP, on va peut-être utiliser le noyau NT, ça fera peut-être pas du mal. Donc voilà. De mémoire, il me semble que c'est ça, mais après, je suis plus un expert d'Apple qu'un expert de Microsoft, donc du coup, je peux aussi dire des conneries, c'est pour ça que le chat ne peut pas hésiter à me dire que je dis des conneries.
Alors, il y a d'autres trucs, il y a Windows 2000 et Windows Millennium. Windows 2000 était bien, mais ça ne s'est pas bien vendu. Windows 2000 était bien et stable, mais ça s'est
pas
bien vendu.
Pas bien.
Pardon, excuse-moi.
Quoi? Il était bien et stable, mais ne s'est pas bien vendu, mais il faut pas confondre avec la version Millennium. Donc là, j'ai envie de dire,
c'est ce que je suis en train de dire.
Oui, non, c'est la version ME qui était pourrie, Windows 2000, s'en sortait
bien. Je sais, c'est ce que je suis en train de
dire. C'est quoi Windows ME alors?
Alors, Windows ME, justement, c'est le truc qui est sorti aux alentours de.
C'était le Windows ME.
C'est la dernière version qui utilisait le noyau 9X, c'est-à-dire le même que dans 95 et 98, si t'écoutais un minimum. Et tu peux te rapprocher du micro, ça t'arrachera pas le cul.
2000 et ME.
Entre 2000 et ME, et ben comme je viens de te le dire, 2000 c'était plutôt orienté entreprise. Si tu veux, 2000 c'est la version pro, d'accord. Et Millennium c'est la version consumer grand public.
D'accord.
Sauf que à l'époque, à la différence de Windows XP Pro et Windows XP grand public family, qu'est-ce qu'il y a?
Ils vont un peu balancer à tout le monde. Windows 2000, tout le monde l'a un peu touché, même sans être en pro, quoi.
Oui, non, mais c'est pas ça. C'était plus orienté pro. De la même manière, tu peux acheter Windows XP Pro, hein, c'est pas gênant. Mais ils t'empêcheront pas, ils te demanderont pas une carte qui prouve que c'est pour un usage professionnel.
Ah, mais attends, ils ont sorti une version entre 98 et XP qui était Millennium ME, quoi, en fait. Qui était 2000 ME.
Non, 2000. Attends, stop. On va faire simple. Le MEB, écoute attentivement.
Bah, si j'ai bien compris. Attends, non, pour voir si j'ai bien compris.
Non, mais t'as pas compris.
Attends, t'avais la version 95, la version 98.
Et ensuite, la version Millennium.
Ensuite, t'avais la version qui était 2000 pour les pros et Millennium Edition pour les particuliers. Ensuite, t'as eu XP.
C'est ça. Dans la chronologie, c'est à peu près ça. Sauf que, à la différence de Windows XP familial et Windows XP Pro, qui partagent le même noyau, d'accord, qui ont juste quelques services en plus. D'accord.
Ça, c'est une différence de noyau. En fait.
Entre Millennium et 2000, il y avait une différence de noyau, d'accord. Sachant que le noyau 9X, d'accord, était, sauf erreur, enfin 9X, donc 95, etc., était un descendant du noyau de Windows 3.1. D'accord. Donc tu te doutes que c'est, il commençait à empiler un peu trop de trucs pour que ça reste stable.
C'est une surcouche graphique de MS-DOS.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire ça. Oui, voilà, il y avait toujours du bon gros MS-DOS derrière, tandis que dans le noyau NT, MS-DOS est un peu moins à la base de tout ce bordel. Voilà. Donc en gros, t'as un peu moins de couches dans le noyau NT qui est plus récent, forcément, parce que je crois qu'il était sorti en même temps 98 ou quelque chose comme ça.
Non, il était sorti en même temps 95, je pense.
Mais enfin, toujours est-il, il n'était pas sorti en même temps que Windows 3.1, ce qui est déjà pas mal. Et donc, du coup, il était un peu plus léger, enfin un peu plus optimisé, pas forcément léger.
Attends, bah, d'ailleurs, on va compter Windows 7. Windows Vista 6, XP 5, 2004, 98.3, non, c'était sorti au bout de Windows 3.1. J'ai vérifié sur Xperia, mais il y avait pas ça.
Mais de quoi mais qu'est-ce qu'il nous raconte?
J'essaie de voir quelle était la première version du noyau NT.
Et pourquoi? Tu penses que Windows 7, il l'appelle comme ça parce que c'était le.
Oui.
C'est la 7ème version du noyau?
Oui. C'est la 7ème version du noyau NT, ouais.
Normalement, ouais.
D'accord.
Mais pas du noyau
NT. Est-ce que tu pourrais développer un peu sur la différence entre le noyau 9X et le noyau NT?
Ouais, alors le noyau NT c'est mieux.
Et proche du micro c'est mieux.
C'est de la merde.
Non mais ça je l'ai déjà dit, plus ou moins.
Concrètement, et ben, le noyau 9X il est basé sur DOS et le noyau NT il est moins basé sur DOS.
Ça c'est ce que je l'ai dit aussi.
Officiellement il est pas basé sur DOS, mais en réalité il est moins basé sur DOS.
Et la question est à quand est né NT?
Bah à la sortie de Windows NT.
C'était quand?
Je sais plus.
Alors moi je vois 80. La seule date que je vois, la plus récente, c'est 90.
Après vous me demandez des infos, je suis pas spécialiste Microsoft
non.
ou Windows.
Non mais la date la plus récente, c'est
72. Tu me demandes une date.
Non, 93. 93. Donc c'est à partir de 3 points. NT, c'est à partir de 3 points. Voilà.
NT, c'est à partir de 3 points.
Ouais. As Windows, oui,
c'est-à-dire que quand il y avait Windows NT, c'était à la même époque que Windows 3.1.
Le premier Windows NT était le Microsoft 3.1 NT.
Enfin, ah oui, d'accord. Okay. Donc ils ont sorti une version différente.
Ouais. Non, enfin, c'est né quand même à ce moment-là. Quoi.
Ouais, donc je pensais que c'était une question de... Non, c'était juste qu'ils s'étaient vraiment bien foirés sur le premier noyau, quand même.
Bah,
donc,
c'était
voilà, demandé pourquoi.
C'était
pourquoi
Ken Dorsey, hein.
Il demandait pourquoi Windows Millennium buguait dans tous les sens, qu'est-ce que c'était son problème.
C'était la transition entre les deux noyaux,
non? Non, il était toujours sur le noyau 9X. Il n'avait pas du tout le noyau NT, Millennium.
Minority Report.
Oui. Dites oui, c'est
pas... D'accord, oui.
C'est pas faux. Ouais, d'accord, mais t'es saoulé. Hein.
Et là, c'est un blanc. Bon, sur ces conneries... Sur ces conneries,
il reste
autre chose au niveau. Non, autre chose au niveau des flops.
Oui, le teraflop, qui est la vitesse de calcul.
Alors attends, qu'est-ce que j'ai vu? Ouais, il y a Windows 2000, il y a IE6, il y a le KIN par exemple, le courrier.
C'est moi où j'avais commencé une phrase.
Vas-y.
Je crois que t'avais dit oui.
Ah, il me semble que j'avais commencé
avant.
Une phrase. Ouais, avant qu'il me coupe la parole.
Au niveau des flops.
Parce que à chaque fois qu'il me coupe la parole, tu peux lui mettre une grande tape dans la gueule parce qu'il est un peu loin là.
D'accord.
Merci. Donc au niveau des flops, effectivement, voilà. Mais il a